Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un quatrième épisode de cette série des clés pour vivre intitulée « Ô Jésus de grâce, change-moi » avec ce sous-titre « Seigneur, libère-moi de moi ». C'est surtout le livre de Daniel Desbois que je reçois depuis le début de la semaine. Bonjour Daniel Desbois.
Bonjour Nathalie.
Ce livre est paru aux éditions Baudelaire et je vous invite, chers auditeurs, à devenir lecteur de cet ouvrage qui est un bon support pour une approche psychologique, une approche spirituelle, mais en vue d'un changement, mais surtout pour finalité que le cœur de l'homme se convertisse pour accomplir et faire la volonté du bon Dieu. Alors au programme pendant ces quelques minutes avec vous Daniel, l'homme est compliqué, l'homme la rébellion, l'homme est parfois rigide, l'homme a laissé son cœur s'endurcir et cet endurcissement du cœur a conduit ce petit être devenu adulte à se couper de Dieu, se séparer de Dieu, et au fond, en se séparant du bon Dieu, il s'est séparé du grand amour. Voilà. Oui. Alors, comment le libérer et comment le réconcilier pour que cette séparation ne soit plus une séparation, mais devienne une union à nouveau, une réconciliation avec le Dieu créateur?
Déjà, il faut qu'il se pose la question. S'il est coupé de Dieu, parce qu'il peut être coupé de Dieu sans le savoir. Alors que c'est un chrétien qui est engagé, priant, sérieux.
Qui vit des sacrements.
Qui vit des sacrements tous les jours, voilà, adoration, tout ça, qui ne sait pas qu'il est coupé de Dieu. Donc en fait, c'est ça le piège, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on est coupé de Dieu, mais pourquoi je suis coupé de Dieu? Et en fait, la coupure avec Dieu, elle a commencé déjà dans le jardin de l'Éden, hein. C'est-à-dire la désobéissance, hein, Adam et Ève, qui ont voulu faire sans Dieu. Et voilà le malin qui leur dit, mais vous allez pouvoir être Dieu sans Dieu. Ben pourquoi pas? Ils ont mordu, mais comme on fait nous aussi. Si je peux être Dieu sans Dieu, pourquoi je vais m'embarrasser d'un Dieu qui va être exigeant? Il va être exigeant, Dieu, pour que je puisse être dans les pas du Christ. Si on a l'image du Christ pour aller vers Dieu, on se dit, waouh, ça passe par des mauvais moments. Étant donné qu'on est obligé de passer par la croix. Donc tant que c'est le Christ qui passe par la croix, on dit, bon c'est lui, il est passé par la croix. Oui, mais il me dit, prends ta croix et suis-moi. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que si je me dis, mais s'il a fait le chemin pour moi, qui m'a sauvé, qui m'a libéré, pourquoi est-ce que j'ai besoin de porter la croix? Pourquoi est-ce que quel est le sens de la souffrance? Et c'est vrai que la souffrance est une conséquence. Mais depuis l'enfance, c'est une conséquence de la rupture qu'il y a avec l'autre et surtout de la rupture qu'il y a avec Dieu. C'est pour ça que je parle du jardin d'Éden. Dès l'instant où il y a eu désobéissance, dès l'instant où il y a eu coupure, obligatoirement, il y a eu la dégringolade. Ce qui veut dire que quand l'homme, comme Adam et Ève, quand l'homme fait usage de sa liberté et qu'il fait abus de sa liberté, il se coupe de Dieu. Parce qu'il va y avoir un conflit, mais très fort, entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. À l'époque de l'Éden, ce que Dieu voulait, Adam et Ève le voulaient. Les deux volontés étaient unies, elles ne faisaient qu'un. Ce que l'un voulait, l'autre voulait. Ce que voulaient Adam et Ève, Dieu le voulait. Parce que c'était la volonté de Dieu, il n'y avait que le bien, il n'y avait que l'expérience du bien. Évidemment. Dieu a dit surtout, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est par là que le malin est passé. Et ils ont été tentés, mais après tout, ils ne connaissaient que le bien. Ils ne savaient pas ce que c'était la mort, ils ne savaient pas ce que c'était le péché. Dieu leur a dit, attention, ne mangez pas parce que vous allez mourir. Mais ça ne veut rien dire pour eux, parce qu'ils ne connaissaient pas le mal. Dès l'instant où ils ont fait l'expérience du mal, ils ont fait usage de leur liberté, par rapport à Dieu, et cet usage de la liberté, il s'est décliné jusqu'à aujourd'hui. Et quand je vois les adolescents, aujourd'hui, combien ils peuvent être en difficulté dès l'instant où ils ont... C'est vrai, on est dans une société suffisamment libre. On ne parle que de ça. La liberté, il faut la respecter. Il n'y a plus la loi qui vient au moins tempérer l'abus de la liberté. On ne veut pas de la loi, on ne veut pas d'exigence. Et ça se paye. Vous voyez, ça, c'est le prix lourd. Donc ce conflit qu'il y a entre l'abus de, ma vie, de la liberté, Dieu m'a donné, il a donné à l'humanité, et c'était par amour qu'il a fait. Et en même temps, c'est un piège. Il a donné la liberté de conscience. Donc déjà, dans ma conscience, si je suis dans le mélange entre le bien et le mal, si je dis comme saint Paul, le mal que je fais, je ne veux pas le faire, et puis je veux faire le bien, je fais le mal, et l'inverse. Donc, on se rend compte que cette liberté-là, ce conflit entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu, c'est là qu'il va y avoir le plus d'usure sur le plan du dépassement de soi, de la liberté à aller rechercher. Pour être libre, il faut se défaire de la liberté humaine. C'est le paradoxe. Ah bon, donc je vais être libre quand je serai libéré de mon besoin d'être libre, humainement parlant. C'est compliqué de se dire un truc pareil. Mais non, si je suis libre, je suis libre. Mais en même temps, je suis libre de Dieu.
Cette liberté dont vous parlez, et merci infiniment, Daniel Desbois, vous éclairez certainement aussi un bon nombre d'auditeurs. Cette liberté doit être passée par une forme de purification, de dépouillement intérieur. Oui. Comment sanctifier, au fond, cet homme dans cette liberté qui est trop de liberté, qu'il ne sait peut-être plus gérer parce qu'il s'est coupé et séparé de son Dieu créateur, qu'il a perdu un peu de vue. Oui. Il ne sait plus comment le retrouver, l'écouter, parce que sa liberté a été trop grande et que sa conscience s'est enténébrée, peut-être.
C'est sûr. Vous savez, quand il y a un abus de soi, de sa suffisance. Quand je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Quand on est dans une culture où on a tout, pourquoi voulez-vous avoir besoin de Dieu? Et on est dans ce type de culture. Voyez. Et c'est là qu'il y a, ben, il y a des dommages collatéraux. C'est que vraiment, et c'est la parole que j'évoquais là hier ou avant-hier, la parole de Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui augmente, pour que le Christ augmente. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, il y a donc deux situations, il y a les saints. Les saints, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont mortifier le moi. Ils vont le casser, le moi. Mais ce sont des colosses de l'amour, ces gens-là.
Vous en parlez dans votre livre.
Oui.
Vous les nommez aussi, certains d'entre eux.
Oui, je les nomme. Ils brisent le moi pour pouvoir laisser le Christ pousser en soi. Mais pour nous, on est des petits croyants, mais faiblards, en fait.
Même si on paresseux. Hein.
Un peu paresseux. Même si on a le désir de Dieu, on dit, mais comment est-ce que je vais me flageller, moi, me mortifier pour que le moi diminue et que le Christ augmente? Alors, et si on retournait la situation? C'est-à-dire, au lieu de diminuer le moi, cherche à faire grandir le Christ en toi. Et c'est là qu'il va y avoir, en fin de compte, la porte ouverte. La porte ouverte, ça veut dire que si je veux que le Christ prenne de plus en plus de place, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille de plus en plus de manière amoureuse le rencontrer dans un cœur à cœur, pour le connaître, connaître son humanité, connaître ce qu'il est. Et c'est l'adoration.
Donc là, vous parlez, vous décrivez très bien, Daniel, la rencontre d'un ami.
Oui, tout à fait.
Quand il y a une belle amitié, on a besoin d'un ami, d'être réconforté, écouté, partagé. Donc si on aime Jésus, ou si on décide d'aller plus loin dans la rencontre, on va le visiter.
On va le visiter. Et vous savez, Jésus, il quémande notre amour. Il est en attente, vous savez, comme un malade qui est dans un hôpital. Et puis, ça fait des heures qu'il attend, il n'a personne, pas de visite. Et tiens, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Et là, il a le cœur qui s'ouvre. Il a un sourire. Ça va durer 5 minutes ou un quart d'heure. Il est rempli. Il est rempli d'amour, vous voyez? Parce qu'il y a une attente. Et si on avait cette même attente de notre Jésus, c'est merveilleux. Mais il va falloir creuser ce besoin de lui pour pouvoir justement... Parce que lui, il est... Alors le pire, c'est que, je veux dire encore, si c'est moi qui suis en attente, mais c'est lui qui a une attente encore plus forte.
C'est lui qui nous attend.
C'est lui qui nous attend.
Et il nous désire.
C'est lui qui nous attend, c'est lui qui nous désire, c'est lui qui souffre parce que je ne viens pas le visiter. C'est lui qui est à l'hôpital.
Alors la question qu'on pourrait poser, si vous voulez bien, Daniel Desbois, à ceux et celles qui vous écoutent depuis le début de la semaine et qui deviendront, et je vous invite, chers auditeurs, à devenir lecteurs de ce livre... Ô Jésus de grâce, change-moi avec ce sous-titre, Seigneur, libère-moi de moi. Est-ce que je désire vraiment cette rencontre? Est-ce que je désire vraiment passer du temps aussi avec lui? Voilà, ça sera la question de mon désir. Où est-il aujourd'hui dans mon désir de le visiter ou non? Peut-être aujourd'hui, demain, arrêtez-vous dans une église. Daniel Desbois, je vous propose de vous retrouver pour le cinquième et dernier épisode des Clés pour vivre. À demain.